Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur VO Afrique pour ce Calling, votre émission interactive sur tous ces sujets qui font ou défont l'actualité. Ce mardi, nous parlons de respect des souverainetés ou de devoir d'ingérence en Afrique. En effet, de nombreux pays occidentaux financent les processus électoraux ou des forces de maintien de la paix sur le continent. Ils n'hésitent pas à demander le respect du calendrier électoral ou le respect des droits de l'homme dans ces pays. Face à l'oppresseur, les populations en appellent très souvent aussi à la communauté internationale. Alors, que faire? C'est l'une des principales questions que nous vous posons ce soir. Vos réactions sont attendues au téléphone 001 202 619 31 40 ou sur notre page Facebook. John Lyndon à la présentation, Georges Léonard Sagnot à la production. J'accueille dans ce studio mes deux principaux invités. Idriss Fall, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir à tout le monde.
Timothée Donangmaï, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir à tous.
Alors, on a aussi au téléphone, il me semble, le professeur Ahmad, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, ravi hein, de vous recevoir. Alors, on va commencer, je vais commencer par Idriss. Alors, souveraineté ou devoir d'ingérence en Afrique?
Bon, je vais être concret. La dernière, c'est l'Union européenne qui dit Kinshasa, il faut respecter le calendrier. Et la réponse est venue de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, en disant que nous sommes un pays souverain. Donc, c'est un conflit qui est là et que je pense que ce n'est que le début. Hein.
Timothée?
Oui, bon, il faut dire que si le pays fait partie de la communauté internationale, il est tout à fait logique que des membres de cette communauté-là lui rappellent ses obligations internationales, notamment en matière de respect des droits de l'homme, en matière des pratiques démocratiques. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable dans le contexte international.
Alors, professeur Ahmad, est-ce que c'est toujours... nécessaire que cette communauté internationale nous rappelle ce qu'on doit faire?
Malheureusement, nous sommes à la recherche d'un équilibre parce que la question du devoir ou du droit d'ingérence est basée sur un autre qualificatif qui est celui de l'humanitaire. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation de péril en la demeure en ce qui concerne des violations massives des droits de l'homme, des atteintes à un certain nombre de droits des peuples? C'est une question qui se pose. Et de l'autre côté, il y a le respect de la souveraineté qui fonde ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc, les États sont tous souverains. Et se gérer dans les affaires intérieures d'un État se portant atteinte à sa souveraineté. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui motive la communauté internationale, ce gros machin que les Nations Unies, comme le qualifiait De Gaulle, animé par un certain nombre de leaders? La communauté internationale elle-même ne constitue pas toute une famille homogène. Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis et autres, et notamment l'Union européenne, qui de plus en plus prend ses pas par rapport à ce qui se passe dans le giron francophone, par exemple.
Alors
qu'est-ce qui s'agit? Qu'est-ce qui préside derrière toute cette pression internationale sous couvert de périls, sous couvert de questions de droits de l'homme, de manque d'alternance, de modification des constitutions, ce qui est tout à fait à l'esprit justifiable? Alors, est-ce que... et de l'autre côté, c'est même la société civile et les partis politiques et même les peuples représentés par ces structures-là qui font appel à la communauté internationale.
Alors, vous restez avec nous. Restez avec nous, professeur Ahmad. Je vais prendre Hervé... Miabé. Hervé, bonsoir.
Bonsoir. Alors, bon après-midi, je devrais dire. Okay.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours taper sur les doigts en Afrique et pas l'inverse?
Bon, ben, c'est premièrement parce que dans beaucoup de cas, beaucoup de nos pays ne se font pas respecter. Par exemple, moi, j'ai suivi un peu l'émission. Je viens de rentrer dans l'émission, donc je n'ai pas vu le développement du professeur qui était en train de parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais bon, il y a un aspect historique de nos relations avec l'Occident. Vous savez, la conférence de Berlin de 1884 à 85, il y a eu des accords où certains pays étaient des pays en fait qui étaient sous le gide d'une autre puissance, donc leur puissance coloniale. Bon, il y a eu d'autres considérations, des accords qui ont été signés. Par exemple, il y a eu des accords, l'accord de Lomé de 1975, il y a eu l'accord de Lomé 4 signé entre 1994 et 1995. Donc il y a eu pas mal d'accords entre la France, entre l'Europe, l'Occident et puis l'Afrique. Bon, c'est sur des bases humanitaires. Il ne faut pas seulement dire qu'on se fait taper. Par exemple, quand il y a eu des crises Ebola, l'Union européenne a intervenu, les pays occidentaux ont intervenu. Beaucoup de ces crises humanitaires, très souvent, c'est l'Europe qui agit. C'est les étrangers, en fait, c'est l'Amérique aussi qui agit. Mais bon, très peu, on voit les pays africains qui s'entraident eux-mêmes. Bon,
alors,
mais c'est pas simplement en Afrique, mais cette intervention, vous vous rappelez de la Kosovo, vous vous rappelez de la Bosnie. Donc dans ce cadre-là, quand c'est pour caractère humanitaire, on comprend. Le seul côté où on est très opposé, c'est les interventions qui sont faites par certains pays pour leurs propres intérêts. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, comme vous le savez.
Hervé, restez avec nous. Restez avec nous. Je vais me tourner vers Idriss Fall. Tout cela semble dire qu'il y a un peu d'irresponsabilité, comme semblait le dire également Timothée tout à l'heure. Lorsqu'un président n'arrive pas à respecter une chose aussi simple qu'un calendrier électoral, qu'est-ce que vous voulez que la communauté international face.
Je pense pas que c'est par volonté. Moi, je ne suis pas opposant ni militant. Pour des pays que je connais, par exemple, la République démocratique du Congo, je ne défends pas Joseph Kabila, il dit qu'il faut recenser la population. Il ne peut pas recenser une population qui dépasse les 60 millions en un jour.
Mais on peut commencer à recenser la population lorsqu'il prend le pouvoir,
donc,
par exemple.
Non, il dit qu'il lui faut de l'argent. Donc tout ça, je sais que c'est là-bas. Et est-ce que c'est à l'Union européenne, à Bruxelles, de venir dire « Oui, vous devez respecter le calendrier électoral. » Alors que tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'élection au Congo d'ici le 19 novembre 2016. Tout le monde le sait. Le département d'État, John Kerry est parti à Kinshasa, l'a répété récemment à Kabila. Il faut tenir des élections, alors que tout le monde sait que des élections ne sont pas possibles. Donc, je ne sais pas.
Timothée, voudrais réagir?
Oui, Idriss Fall, il faut vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle, chez nous les catholiques, le péché par omission. Ici, aux États-Unis, on sait que les élections se tiennent tous les 4 ans. Donc, on n'attend pas la dernière minute pour dire qu'on va recenser, on ne va pas recenser. On va faire ceci, on va faire cela. On s'y prend 4 ans à l'avance pour organiser des élections. Donc si aujourd'hui, à la dernière minute, on n'est pas prêt, c'est que quelque part, il y a la responsabilité de ceux qui gèrent le pays.
Alors, Paul-Léonard Ngoué est avec nous au téléphone. Paul-Léonard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez écouté depuis le début de l'émission. Votre réaction?
Plusieurs réactions. D'abord, sur la notion du droit d'ingérence, je voudrais juste apporter un point de précision. C'est une notion qui a pour auteur le professeur Jean-François Revel, philosophe français. Et c'est dans la fin des années 70, début des années 80, qu'il a rendu populaire cette notion. Alors, on la rattache à la communauté internationale. Mais il faut dire déjà d'emblée qu'il n'y a pas une des communautés internationales. Et c'est là où le bât blesse. Il n'y a pas une communauté internationale, mais il y a plusieurs communautés internationales en fonction des intérêts. Parce que nous ne pouvons pas être une communauté internationale lorsqu'il y a des intérêts qui sont divergents. Alors, on se rend compte à l'analyse que la notion de droit d'ingérence humanitaire ou autre, n'est-ce pas, c'est juste une forme d'escroquerie imposée par un groupe de nations pour s'ingérer, pour imposer leur dictat à des parties du continent qui sont des parties de la planète qui sont faibles. Mais c'est donc une mauvaise solution à un problème réel. Parce que de l'autre côté aussi, n'est-ce pas, on se rend compte que quand on prend le cas de l'Afrique, des pays africains, alors il est difficile d'exprimer, de respecter la souveraineté populaire. Normalement, dans une démocratie, la souveraineté appartient au peuple. Alors, les chefs d'État se sont soustraits à cette obligation. Et ils sont donc obligés de s'appuyer sur des collusions avec les pays occidentaux pour se maintenir au pouvoir. Et cela donne donc à voir ce genre de scénario que nous ne pouvons que décrier.
Alors,
vers une multiplication des ingérences et prétendument humanitaires, mais de renforcer la souveraineté populaire n'est-ce pas, par le biais de la démocratie, du jeu démocratique dans tous les pays africains.
Alors, professeur Ahmad, M. Ngwe parle de la souveraineté du peuple. On a eu un cas il y a une semaine où le président Condé de Guinée disait justement qu'il allait se référer au peuple lorsque viendra le temps.
Et il n'est pas le seul. Paul Kagame vient de le faire. Lui, voilà. Il montre que le peuple l'aime tellement qu'ils lui ont demandé de rester.
Justement, pourquoi est-ce qu'il s'adresse au peuple lorsqu'ils veulent rester, mais très souvent, il refuse d'écouter la communauté internationale qui défend ce peuple, Monsieur Timothée?
Mais écoutez, cher ami, c'est tout simplement une certaine ruse pour contourner ce qu'on appelle le contrat social, qui est la constitution qui fonde la volonté de vivre ensemble. C'est pas celui, il y a également tout à l'heure, il y a pas longtemps, le président Sassou Nguesso a avancé cet argument. Tout simplement, ce peuple-là est pris comme un prétexte et il se situe dans le cadre de la recherche de la légalité sans pour autant se référer à une forte légitimité qui est d'ailleurs contestée. Moi, je dis, il faut faire une distinction entre la légitimité qui est issue de la volonté populaire et qui n'est jamais, le peuple africain n'a jamais été d'une manière transparente et libre à consulter pour lui donner son avis, mais dès l'instant où on se base sur la légalité en disant, oui, la Constitution dit que le peuple peut être souverain, peut faire par référendum modifier la Constitution. Non, écoutez, ça, tout ça, c'est des prétextes. La question de la démocratie ou pas pose deux problèmes. Nous-mêmes, on prête le flanc à l'Occident et aux ingérences internationales parce que nous ne sommes pas des bons gouvernants. Nos gouvernants sont pour la plupart dépourvus d'une légitimité. Et alors, quand il s'agit des ressources naturelles importantes comme les scandales géologiques qui est la RDC, alors monsieur, il y a tous les enjeux qui s'impliquent. On sous prétexte de démocratie, de liberté, d'alternance. Et alors là, on porte atteinte à nos souverainetés parce qu'on s'implique pour la dévolution du pouvoir par rapport à un président qui est pris en otage selon les intérêts de cette fâcheuse appellation qu'est la communauté internationale, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure.
Voilà.
Il s'agit de préserver les intérêts et surtout l'emprise sur des dirigeants qui permettraient le vote de l'Afrique.
Merci professeur. Merci professeur. Timothée, vous voulez réagir?
Oui, ainsi que l'a dit mon ami Ahmad tantôt, nos peuples en Afrique ont du mal à peser dans la balance politique. Leur pouvoir politique en tant que tel est marginal, les décisions se prennent sans eux. Du coup, ceux qui essaient de faire avancer les choses, de pousser au changement comme les groupes de la société civile, en appellent à la pression internationale pour faire changer les choses. On a aussi vu dans quelques pays, un certain rôle de l'Église, notamment l'Église catholique, qui essaie de jouer un rôle de contrepoids dans ces pays-là, un peu pour appuyer le peuple. Et donc, les gens qui sont face à cette situation et qui subissent le poids de la politique, des dirigeants, et ils n'ont pas d'autre choix que d'en appeler à l'aide d'où qu'elle vienne, de la communauté internationale ou d'ailleurs.
Je voulais simplement préciser, comme on parle pour la communauté internationale, la société civile, quoi. C'est le plus gros fourre-tout que je n'ai jamais retrouvé en Afrique. On y trouve des alimentaires, on y trouve des gens qui servent de la société civile comme tremplin pour devenir des politiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand même nous, Africains, que les gens soient sérieux dans le traitement des questions de nos populations.
Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure. On va prendre une petite pause musicale, le temps de recalmer les esprits.
J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé. Baïonner et écoute la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens, les Somaliens fusillent les Somaliens, les Rwandais génocident Rwandais, les Burundais découpent les Burundais, les Congolais massacrent les Congolais, les Angolais brûlent l'Angola.
On a l'or à ciel vert. Voilà, Idriss Fall, vous parliez tout à l'heure de la société civile qui est un fourre-tout. Comment vous expliquez cela?
Mais c'est comme les politiques. C'est comme tout, on disait tout à l'heure sur la communauté internationale. Il y a des gens convaincus, j'imagine, qui se battent pour protéger l'environnement et machin. Il y a des gens qui se battent pour les droits des enfants, contre l'excision et tout ce que tu veux. Mais il y a d'autres gens sous couvert de la société civile. Et société civile, j'ai dit, c'est au nom, pour tout, n'importe qui se réveille, crée son association et qui a des objectifs politiques, commence à dénoncer le gouvernement ou bien à se faire des sympathies avec des partis d'opposition. Je dis qu'il ne faut pas appeler ça société civile parce que c'est les gens qui ont des prises de position politiques.
Alors, on va prendre un auditeur, Alpha Madi à Conakry.
Oui, bonsoir.
Voilà, voilà. Vous avez suivi les réactions tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Ben, écoutez, moi, je pense que le terme communauté internationale, il faut essayer de le revoir parce que je pense qu'on donne une certaine importance à cela. Il s'agit bien évidemment des pays qui sont là à vouloir conserver leur intérêt dans certains pays. Quand je prends le cas de la République de Guinée, quand on parle bien évidemment de communauté internationale, il s'agit de la France en général et les États-Unis qui sont ceux qui financent le système électoral en République de Guinée. On a vu ce qui s'est passé dernièrement lors des élections présidentielles avec le délégué, le chef de la délégation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui a validé une élection dont les résultats n'avaient pas été confirmés par la constitution, la Cour constitutionnelle. Ça veut dire combien de fois il y a une ingérence de ce côté. Mais c'est une ingérence qui est voulue par les États africains, bien évidemment, parce que nous avons la possibilité de dire non à ces facilités élargies de crédit à tout moment de l'Union européenne. Mais bien sûr que les Européens, quand vous voulez accéder à ces facilités élargies de crédit, ils vous imposent certaines normes que vous êtes obligés d'accepter. Il y a ce problème-là. Le problème de souveraineté des États africains n'existe pas aujourd'hui parce que nos États sont très mal organisés. Nous sommes dans un contexte de célébration de la fête de la création de l'Union de l'Organisation de l'Unité africaine demain, mercredi. Ça dit combien de fois nous devons encore réfléchir sur les formes d'organisation de nos États pour nous permettre donc de sortir de cet état de fait.
Alors, Timothée, cela veut dire, d'ailleurs, Alpha Blondy le disait tout à l'heure, les Africains sont les ennemis de l'Afrique.
Ben, c'est le cas. Et c'est malheureusement un triste constat que fait le chanteur ivoirien. On n'arrive pas encore à s'entendre sur le minimum qui pourra permettre à tout le monde de coexister pacifiquement. Donc, je veux revenir à ce que Idriss disait tout à l'heure, que certaines organisations de la société civile s'allient aux partis politiques. Mais le fait est que il y a des situations où l'état de droit n'est pas respecté, les règles démocratiques ne sont pas respectées. Donc, c'est des situations qui sont dénoncées par les partis politiques et aussi par la société civile. Donc, il y a cette sorte d'alliance de circonstances. Si on est dans un système où les règles sont respectées, chacun aura un rôle défini à jouer. Mais là, quand on ne respecte plus de règles, eh bien, tout le monde essaie de faire front commun pour faire évoluer les choses. Et c'est là où partis politiques et groupes de la société civile se retrouvent ensemble.
Alors, Paul-Léonard Ngoué, lorsqu'on est un État et qu'on n'est pas souverain, est-ce qu'on a droit à la parole devant cette communauté internationale?
Je vais répondre à cette question en évoquant une autre, en soulevant un autre problème, si vous le permettez.
Allez-y.
Il n'y a pas, vu des évolutions démocratiques, il n'y a pas une Afrique, mais plusieurs Afriques. Parce que les conclusions qui sont développées par les différents interlocuteurs, quand on va y regarder de plus près, correspondent à l'évolution des pays d'Afrique francophone et lusophone notamment. Et dans une certaine mesure les pays du Maghreb, arabophones, mais ils ne s'appliquent pas, si nous y regardons de très près, aux pays anglophones. Parce qu'à l'exception de trois ou quatre pays, je cite la Gambie, le Zimbabwe, l'Ouganda et le Soudan, la quasi-totalité des pays anglophones d'Afrique ont connu des alternances politiques. Les processus démocratiques sont déjà bien mis en place.
Il faut modérer ça, parce que le Nigeria, c'est le pays où il y a eu le plus de coups d'État en Afrique, en dehors du Burkina Faso. C'est vous apporter cette précision tout de suite.
Je dis, si nous partons de ce qu'on a appelé les ventes démocratiques, c'est-à-dire du début des années 90, il n'y a plus eu de coup d'État au Nigeria, il y a eu des alternances politiques qui sont passées plus ou moins bien et de plus en plus bien.
Voilà.
Et nous, on regarde de l'Afrique francophone, tout se passe mal. Et je voudrais donc, à partir de ce constat, dire que ce n'est pas les ingérences de la communauté internationale qui peuvent favoriser les processus démocratiques. C'est plutôt ces ingérences, en fait, qui empêchent le processus
voilà.
Démocratique.
On vous a compris, Paul Léonard. On va lire quelques réactions de Facebook et c'est avec Elise Megel.
Dems Munga de RDC nous dit que ce qu'il finance, c'est une dépendance infinie de l'Afrique à l'Occident. La raison est simple, face à des nations africaines fortes et indépendantes, leurs intérêts sont très minimes. Lucas Samvoura de Nairobi souligne que les États africains sont souverains et que les pays occidentaux qui contribuent aux processus électoraux en Afrique ne devraient pas leur imposer ou leur dicter des injonctions, mais au contraire bel et bien travailler en bonne coopération avec les États africains. On n'est pas dépendant de l'Occident, nos relations se limitent aux différents partenariats, à nos dirigeants également de respecter les textes constitutionnels pour éviter des chaos. C'était Lucas Samvoura de Nairobi. Ganunto de Jesuamine de Cotonou nous dit que selon lui, l'Afrique a besoin forcément de l'Occident parce que nos dirigeants africains se comportent comme des hommes sans foi ni loi et sont en mesure de faire n'importe quoi pour s'éterniser au pouvoir. L'Afrique doit cesser de croire que l'Occident est la source de ses malheurs, car à l'heure actuelle, avec toutes les successions de conflits tels qu'en RDC, Afrique du Sud ou la Libye, d'autres pays africains, l'Afrique ne peut s'en sortir sans l'aide de l'Occident et il dit même merci.
Alors Idriss Fall, comment est-ce que l'Afrique peut faire pour faire partie de la communauté internationale et faire elle aussi des injonctions à certains autres pays ?
Il faut remettre de l'ordre chez soi, Si vous ne voulez pas que le voisin d'en face vienne remettre de l'ordre chez vous, il faut remettre de l'ordre sur ce continent.
Et à propos Idriss, ce n'est pas seulement les pays africains qui font l'objet de ces observations de la communauté internationale. Là, le président Barack Obama est au Vietnam où il a déclaré... Quand les candidats peuvent se présenter librement aux élections, cela rend le pays plus stable car les citoyens savent que leur voix compte. Garantir les droits n'est pas une menace pour la stabilité. Donc, c'est une prise de position par rapport aux difficultés qu'éprouvent
les hommes politiques. Timothée, le Tchad d'où vous venez, les candidats, il y en a eu des milliers. Le résultat, on l'a connu d'avance. Et il est là. Le Congo-Brazzaville, il y a eu combien de candidats de l'opposition ? Et c'est libre, c'est pas comme le Vietnam. Et c'est pareil pour la Guinée. En Afrique, c'est pas des candidats qui manquent. Les résultats, on les connaît toujours à l'avance.
Je vais aller au téléphone faire un dernier tour de table. 30 secondes pour chacun de nos invités. Je vais commencer par le professeur Ahmad.
Oui.
Le mot de la fin. Le mot de la fin, 30 secondes.
Oui, allez-y.
Oui, allez-y, le mot de la fin en 30 secondes.
Oui, je voudrais simplement en 30 secondes dire tout simplement que je suis d'accord avec M. Fall tout à l'heure quand il dit que c'est à nous de prendre notre destin en main. Quels que soient les mécanismes de dévolution du pouvoir, il n'y a pas... si nous ne voulons pas que les gens se gèrent dans nos affaires, d'ailleurs ils vont tenter toujours de trouver une faute, c'est à nous de dire qu'il faut légitimer l'exercice de la gouvernance basé sur la volonté de la population, volonté des citoyens et un système de pouvoir qui puisse faire le bonheur et assurer la liberté à nos concitoyens.
Voilà.
Dans ce cas-là, nous pouvons nous targuer avec notre souveraineté de prendre des initiatives et de brandir notre souveraineté.
Merci professeur. Paul Léonard Ngoué, 30 secondes pour le mot de la fin.
Le mot de la fin, je crois qu'il doit appartenir aux peuples africains encadrés par leurs leaders. Il faut que les leaders et les peuples africains se prennent en charge et qu'ils estiment de manière forte leur souveraineté nationale et ainsi la communauté internationale n'aura pas à s'ingérer dans leurs affaires. Parce que la solution n'est pas que la communauté internationale vienne s'ingérer dans les affaires de l'Afrique. La communauté internationale n'a fait que créer des malheurs. Quand on va voir que ce soit le cas de la Libye, de la Somalie, de la Côte d'Ivoire, on peut multiplier les exemples du Congo, du RDC, elle est à l'origine de véritables génocides en Afrique et n'a jamais résolu quelque problème que ce soit. Donc la solution n'est pas de laisser une porte ouverte à la communauté
voilà.
En disant qu'ils vont faire résoudre les problèmes de l'Afrique.
Merci. Alpha Madi, le mot de la fin.
Alors, je voudrais terminer par dire que je ne suis pas d'accord avec Monsieur Alpha Blondy, que je respecte au passage, il faut le dire. Les Africains ne sont pas à la base du malheur de leur continent parce que ce continent a été émietté, divisé lors de la conférence de Berlin. On ne peut pas nous dire que nous sommes à la base. Tant mieux que les populations qui sont là ont été divisées, des citoyens qui parlaient les mêmes langues, qui traversaient les mêmes coutumes ont été divisés et mélangés avec ceux dont ils n'ont pas forcément les mêmes cultures. Je pense que cela continue à jouer. Ça renforce l'ethnocentrisme, le régionalisme. Et ça fait que jusqu'à présent, nous perdurons dans beaucoup de considérations qui n'ont pas de sens.
Merci Alpha. Hervé, le mot de la fin en 30 secondes.
Ok, moi je suis d'accord en partie avec ce que M. Alpha Blondy a dit. Vous savez, quand les Européens sont venus pour la traite négrière, il y a eu toujours des Africains qui ont participé à cette traite négrière pour vendre leurs propres frères. Aujourd'hui, les Européens ne viennent pas chez nous pour les ressources humaines, ils viennent pour les ressources naturelles. Il y a toujours des Africains qui sont en train de participer à la vente des ressources naturelles au désavantage de leur propre pays. C'est le cas de M. Sassou Nguesso, ce sont tous M. Sassou Nguesso. Et je ne suis pas d'accord avec notre frère Idriss qui vient de parler en disant que M. Kabila doit faire des élections. M. Kabila savait dès il y a 4 ans qu'il devait faire des élections,
voilà.
Qu'il aurait dû organiser.
Merci Hervé. Idriss, en 10 secondes, le mot de la fin.
Je pense que l'Afrique se fera par les Africains.
Timothée, le mot de la fin.
Les problèmes ne vont pas être résolus du jour au lendemain, mais on peut déjà commencer par un système judiciaire indépendant.
Voilà. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. Restez à l'écoute. Bonsoir.